Bonjour et bienvenue, 10h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, au moins 68 morts, 47 blessés. Bilan en vie humaine très lourd après une frappe américaine sur un centre pour migrants au Yémen. L'une de ces frappes américaines devenue quasi quotidienne à suivre dès le début du journal. On vote aujourd'hui au Canada, élection législative avec deux favoris au poste de Premier ministre. Le candidat libéral et actuel Premier ministre Marc Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre. Et avec en nombre porté de ces élections, Donald Trump omniprésent dans la campagne. Qui pour succéder au pape François, les cardinaux pourraient arrêter dès aujourd'hui la date de convocation du conclave qui élira le futur chef de l'Église catholique. En France, l'auteur présumé du meurtre d'un jeune malien dans une mosquée du Sud s'est rendu à la police italienne. Donc pour commencer, cette frappe américaine particulièrement meurtrière la nuit dernière à Sadaa, fief des rebelles Houthis dans le nord du Yémen. Elle a coûté la vie à 68 Africains et blessé 47 autres dans un centre de détention pour migrants. Pierre-Olivier, bonjour.
Bonjour.
Depuis la mi-mars, les forces américaines pilonnent pratiquement tous les jours les rebelles Houthis.
Oui, Gilles, plus de 800 frappes en un mois et demi. C'est ce qu'indique le centre américain de commandement pour le Moyen-Orient. Des tirs qui ont tué des centaines de combattants et leaders Houthis et détruit plusieurs infrastructures militaires ainsi que des systèmes de défense anti-aérienne. Un moyen pour les États-Unis de tenter de mettre fin à la menace que représentent les Houthis sur la mer Rouge, le golfe d'Aden, en perturbant le commerce mondial et l'accès vital au canal de Suez. Selon Washington, depuis le 15 mars, ces frappes auraient permis de réduire de près de 70% la fréquence des tirs de missiles rebelles sur les navires de commerce et de 55% les attaques de drones suicides. Soutenus par l'Iran, qui continue, selon les États-Unis, à leur livrer des armes malgré tout, les Houthis ont commencé à cibler le transport maritime fin 2023, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. De son côté, le président américain Donald Trump a indiqué que les actions militaires contre les rebelles se poursuivraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de menaces sur le trafic maritime.
Pierre-Olivier, merci à vous. Autre grand titre de ce début de semaine, les élections au Canada, élections législatives avec en position de favori deux hommes qui peuvent prétendre au poste de Premier ministre, le candidat libéral et actuel Premier ministre Marc Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre. Selon les derniers sondages, les libéraux sont crédités d'un peu plus de 42% des voix et les conservateurs de 38%. À cela, il faut ajouter un troisième homme qui, lui, ne figure pas sur les bulletins de vote, mais dans toutes les têtes, c'est le président américain Donald Trump. La campagne de ces législatives anticipées aura été marquée par le conflit sans précédent avec les États-Unis. Envoyé spécial de RFI, Marine de la Moissonnière.
Hausse des droits de douane, menace d'annexion, les attaques de Donald Trump ont éclipsé tous les autres sujets. Pour Raoul, commercial de 47 ans, Marc Carney est l'homme de la situation.
Marc Carney fera la différence et je suis fort convaincu que le président actuel américain va fléchir. Le prochain premier ministre canadien, croyez-moi madame, va le faire fléchir.
Colby, américain canadienne de 48 ans, votera elle aussi pour Marc Carney, un peu à contre-cœur.
Je le trouve intelligent. Il a une grande expérience à l'international et il comprend comment le monde fonctionne. Même si honnêtement, je le trouve un peu trop conservateur. Mais c'est la meilleure option car Pierre Poilievre partage les mêmes idées que Trump. C'est un mini Donald Trump.
Ce parallèle avec le président américain dérange aussi Ryan, employé de 57 ans, mais après 10 ans de gouvernement libéral, il veut du changement.
Je ne suis pas encore sûr de mon choix. C'est vraiment une décision difficile. J'ai l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. Pierre Poilievre est trop proche de Donald Trump. Et en même temps, vu ce qu'ont fait les libéraux ces dernières années, je crois que je vais voter pour les conservateurs.
Le nouveau Premier ministre aura vite l'occasion de se mesurer à Donald Trump. Les négociations en vue d'un nouvel accord commercial doivent commencer début mai. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
Les résultats des législatives au Canada doivent être connus quelques heures après la clôture du vote à 19h côté Pacifique, 2h TU la nuit prochaine. La Russie n'est pas opposée à l'ouverture de négociations de paix avec l'Ukraine, mais par la voix du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, elle pose ses conditions. La reconnaissance par la communauté internationale de l'annexion russe de la Crimée et d'autres régions d'Ukraine. De son côté, la Corée du Nord a pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie. Elle a aidé Moscou à reprendre aux Ukrainiens des parties de la région de Koursk dont ils s'étaient emparés. Vladimir Poutine a remercié son leader Kim Jong-un pour, je cite, « cet exploit ». Le roi Frédéric du Danemark arrive ce soir au Groenland. Sa première visite officielle depuis les élections groenlandaises de début mars, élection remportée par les partisans d'une indépendance à petits pas. Même si le monarque n'a pas un réel pouvoir politique, sa visite symbolise le rapprochement de Copenhague avec cette île autonome danoise que Donald Trump menace d'annexer. Le roi voyagera d'ailleurs dans le même avion que le nouveau Premier ministre groenlandais qui de son côté achève sa première visite officielle au Danemark. Justine Fontaine est notre envoyée spéciale à Nuuk, la capitale du Groenland.
La visite du roi ici suscite soit de l'indifférence, soit de la sympathie, comme chez ce Groenlandais de 19 ans, Aka, rencontré dans le centre commercial de Nuuk.
Il fait de bonnes choses, il est le bienvenu ici.
Autre génération, même son de cloche quelques pas plus loin, du côté de Runeux, 53 ans.
La plupart des gens ici sont attachés à lui et je fais partie de ceux qui apprécient la relation que nous avons avec le Danemark.
Une relation que le nouveau gouvernement ici et que Copenhague cherchent à renforcer face aux menaces d'annexion formulées par Donald Trump. Pour l'historienne Ouya Miwakengel, la pression exercée par le président américain explique que le roi vienne si vite après les élections groenlandaises.
Indirectement, oui, ça ne fait aucun doute. Il est évident que le Danemark fait tout pour renforcer la relation et faire en sorte que le gouvernement groenlandais se sente considéré.
La première ministre danoise était d'ailleurs venue à Nuuk juste après la nomination du nouveau chef de gouvernement le mois dernier. D'habitude, les dirigeants groenlandais font d'abord le voyage à Copenhague. Justine Fontaine, Nuuk, RFI.
Et le premier ministre du Groenland a rappelé ce dimanche que l'île n'était pas à vendre et ne le serait jamais. Qui pour succéder au pape François à la tête de l'Église catholique et son 1,4 milliard de fidèles? La réponse appartient aux cardinaux électeurs réunis en conclave, réunion à huis clos des princes de l'Église, comme on appelle ces prélats. La date du conclave pourrait être arrêtée ce lundi au terme d'une nouvelle réunion préparatoire des cardinaux. La fin de la traque policière 3 jours après le meurtre à coups de couteau d'un jeune malien dans une mosquée proche de Montpellier dans le sud de la France. L'auteur présumé s'est rendu de lui-même la nuit dernière dans un commissariat de police à Pistoia dans le centre de l'Italie. On sait peu de choses de lui, si ce n'est qu'il a 21 ans, qu'il est né à Lyon et qu'il est de nationalité française. Un juge d'instruction va être saisi et un mandat d'arrêt européen a émis en vue de son transfèrement en France. Sur le réseau X, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a félicité chaleureusement, je cite, les magistrats et les enquêteurs qui ont fait preuve d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme. Hier, un rassemblement s'est tenu place de la République à Paris. Rassemblement de soutien aux proches de la victime et aux musulmans de France où se mêlaient colère et appel à l'apaisement. Reportage d'Aurélien Devernois.
Sa haute silhouette s'est installée un peu à l'écart de la foule qui pleure la mort de son frère. Yoro Sissé accepte de prononcer quelques mots, il est ému.
Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu tous ces mondes-là, ça m'a vraiment apaisé le cœur. Tout ce que moi je peux dire, c'est vous dire merci. Merci pour tout le soutien.
Pas de colère dans sa voix, mais un appel au calme.
On a confiance à la justice française. Aujourd'hui c'est Aboubakar, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Soyons tous solidaires pour faire face à ces fléaux.
Mais Yoro Sissé refuse de parler politique, de s'exprimer sur l'ambiance régnant en France. À quelques mètres, Khadija peine, elle, à dissimuler sa colère et son inquiétude.
On s'y attendait, on savait très bien qu'un jour, il y a un illuminé, il y a quelqu'un qui va sortir, un terroriste, et qui va s'en prendre à des musulmans. Jusque-là, on s'est pris à nous de manière verbale, parfois de manière physique, par des arrachages de voiles. C'est la continuité logique d'une islamophobie qui est en train de monter depuis plusieurs années.
Et elle en veut aux responsables politiques.
Non seulement on nous protège pas aujourd'hui, mais on nous met une cible dans le dos. Le gouvernement actuel et nos ministres actuels nous mettent clairement une cible dans le dos. Et je pense que ça n'ira pas en s'arrangeant, sauf si nous et nos concitoyens, nous nous levons contre ces injustices.
Faire société contre la haine, mais sans beaucoup d'illusions, certains manifestants refusent ainsi de répondre aux médias, complices trop souvent, selon eux, d'un discours anti-musulman.
Reportage Place de la République à Paris d'Aurélien Devernois du service politique de la rédaction. Ainsi s'achève le journal Bonne Journée sur RFI. Elle continue avec 8 milliards de voisins, l'émission d'Emmanuel Bastide qui s'intéresse aujourd'hui à la recherche d'emplois.